marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire, sinon ça vaut pas la peine d'en faire.
La fraîcheur de l'herbe.
Ça sent, disait Clara. L'odeur de terre est venue tout d'un coup. C'est de l'argile. C'est le bord d'un pré qui est tombé. Ça sent la racine. Je marchais dedans à quatre pattes quand j'étais petite, disait Clara. J'entendais dire le pré. Je disais, qu'est-ce que c'est le pré ? Mon père tapait du pied dans l'herbe. C'est ça, disait-il. Et je l'appelle pré, moi, cette odeur de plante. Tu sais, ces choses craquantes qu'on écrase entre les doigts et ça sent une odeur.
Jean Giono. À ceux qui s'étonneraient d'un tel sujet, l'herbe, dans une émission d'histoire, on répondra que beaucoup d'analogies peuvent être tressées entre l'herbe et l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? L'écoute de ce qui longuement meurt et lentement naît, jusqu'à surgir debout au printemps tel un jet de sève. Le plaisir de marcher dans l'histoire vient de cette attente de l'événement, le plaisir de marcher dans l'herbe elle-même. Mais l'herbe affecte aussi notre mémoire personnelle. Elle provoque en nous des revifs du passé, les pieds nus des premiers pas, les premiers émois. Mieux, l'odeur du foin coupé depuis la fenêtre d'une voiture peut faire revenir celle des fenaisons des très anciens temps, alors même qu'on ne les a peut-être pas connues. Le poète dit qu'au milieu du troupeau de moutons broutant la prairie, il lui arrive de voir surgir la silhouette antique de Jacob ou d'Ulysse. C'est le poète d'ailleurs qui peut parler de l'herbe avec la plus juste simplicité. Et n'est-ce pas la poésie qui peut le moins mal exprimer l'histoire, l'histoire qui ondoie dans le vent ?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Alain Corbin, bonjour.
Bonjour.
Après l'odeur, le silence, je mets tout ça dans le désordre. Le son des cloches, l'arbre, encore un livre sur l'histoire de nos émotions, l'un des plus beaux, à mon sens. Hein. La fraîcheur de l'herbe, aux éditions Fayard, où vous retrouvez le souvenir du pays qui fut le vôtre.
Certes.
La Normandie.
Puisque
l'herbe de grâce.
Non seulement la Normandie, mais la basse Normandie. Et non seulement la basse Normandie, mais la racine du Cotentin.
Ouais. Un jour, 1959, devant rejoindre un ami, vous attendez le car. De bon matin, l'odeur de l'herbe. Vous asseyez sur une barrière et surgit, présence immobile, un animal qui broute l'herbe.
Oui, c'est très curieux que je me souvienne de ça après tant d'années. Mais c'est une des scènes qui m'est restée toujours incrustée dans la mémoire.
C'était une vache.
Cette attente dans l'herbe, en presque, l'attente d'un car, d'un autocar, et le regard de la vache.
Pendant un quart d'heure.
Oui.
On ne va pas suivre, bien que ce soit une émission d'histoire, je vais essayer de l'expliquer dans l'exergue, un ordre chronologique, l'herbe dans la Genèse, l'herbe dans l'idylle grecque, dans la poésie latine du 1er siècle. Enfin, vous dites ça très précisément, chez les romantiques, chez les parnassiens, etc. Non, non, on va se promener dans le texte. L'herbe est verte, l'herbe parle, et même elle chante.
Voilà, c'est le brin d'herbe que tous les enfants de la terre ont essayé de maîtriser pour en produire un son, mais en général c'est un son affreux qui en sort. Et j'ai poussé le bouchon plus loin en essayant de faire de la musique.
Quelle est la meilleure herbe pour faire de la musique, Yves Paché ?
C'est une sorte de de graminées, les graminées du printemps, là. Régras, genre, vous voyez, il y a plusieurs sortes de graminées. Il y a aussi une sorte de chien-dent.
Ça chante bien, le chien-dent?
Ah oui, absolument.
Yves Pachet, Nuit Magnétique, France Culture. On laisse un instant de côté le chien-dent, parce que vous écoutez ça, les yeux fermés. J'imagine que vous aviez aussi les yeux fermés quand vous colliez l'oreille sur la terre pour entendre l'herbe.
Oui, parce que c'est quelque chose que l'on fait spontanément, ça, quand, surtout dans la jeunesse ou l'enfance. Mais ce que je viens d'entendre aussi aurait fait beaucoup plaisir à Rimbaud, qui, à propos de l'herbe, parlait du clavecin des prés.
Et le chien-dent?
Ah,
ça vous étonne qu'une mauvaise herbe soit la meilleure pour faire de la musique, non?
Alors, la mauvaise herbe a son histoire. Si l'on songe à l'évangile de Matthieu, l'ivraie, c'est effrayant dans ce texte. L'ivraie, c'est ce qui empêche le blé de pousser, c'est ce qui rampe et qui, du même coup, tue, en quelque sorte, la bonne herbe. Et quand j'étais enfant, on passait des heures et des heures à sarcler, c'est-à-dire à enlever la mauvaise herbe. Et les paysans, pensez au glyphosate d'aujourd'hui. Quand je dis les paysans, ce n'est pas du tout péjoratif, parce que c'est comme ça que intitulé, même dans le domaine de la politique, mais c'est péjoratif. Mais dès le XVIIIe siècle, il y a des défenseurs de la mauvaise herbe, des chantres de la mauvaise herbe. Et aux États-Unis, au XIXe siècle, Thoreau, par exemple, vous voyez, dans cette herbe, la plus intéressante des herbes, et beaucoup de poètes tout contemporains ont chanté, si je puis dire, l'herbe des bouts de gare, l'herbe des terrains vagues, l'herbe des talus, avec toutes sortes de mauvaises herbes. Et Victor Hugo énonçait, il n'y a pas de mauvais hommes, de même qu'il n'y a pas de mauvaises herbes.
Hein. C'était Monsieur Madeleine qui disait ça. Alors, vous distinguez toutes les sortes d'herbes. Vous distinguez la touffe de l'herbe. Il faut aussi distinguer ce qu'est le pré. Alors, le pré. On va suivre un instant Francis Ponge. Alors, pendant plusieurs années de rang, en compagnie de son épouse, il allait observer un pré sur les bords du Lignan, dans les Cévennes, pour finir par écrire La fabrique du pré.
Vu d'ici, ce fragment limité d'espace tiré à quatre rochers ou à quatre haies d'aubépine, guère plus grand qu'un mouchoir, moraine des forêts, ondée de signes adverses, ce pré surface amène, auréole des sources, et de l'orage initial suite douce, près de la roche et du rue, prêt à faucher ou à paître, préparé pour nous par la nature, prêt. Paré, pré, prêt, prêt. Le pré, gisant ici comme le participe passé par excellence, s'y révère aussi bien comme notre préfixe des préfixes, préfixe déjà dans préfixe, présent déjà dans présent.
Là, je laisse rebondir, là, quand même.
Bon, on ne peut pas aller plus loin dans l'analyse poétique du pré. C'est magnifique. C'est un des très, très grands textes de Francis Ponge. Bon, alors c'est vrai que ceux qui connaissent le pré, qui ont expérimenté, éprouvé le pré, ne peuvent que rebondir en quelque sorte sur ce texte et dire en moins bien ce qui est dit. Le pré est souvent, peut-être que Ponge l'oublie, est souvent un peu en déclivité et se penche en quelque sorte vers la rivière qui coule au fond et alimenté par une petite série de ruisseaux qui coulent du pré. L'herbe du pré est plus soignée que l'herbe de la prairie, par exemple. On y fait plus attention. Le pré est souvent bordé de haies, et parfois d'ailleurs un arbre champêtre se tient au milieu. C'est une couche qui fait que on a envie de s'y installer. Je ne dirais pas de s'y coucher, mais de s'y installer, de s'y asseoir, d'y rêver, d'y lire au besoin, ou de s'y reposer tout simplement, et puis de méditer en silence, parce que le pré, mis à part les oiseaux, le chant des oiseaux, est souvent silencieux. C'est un des grands lieux de nombre de poètes, ou d'écrivains d'ailleurs, qui, assez inattendus dans ce domaine, je pense par exemple, j'ai cité Musil, on n'attend pas trop.
L'homme sans qualité.
Dans L'homme sans qualité, des remarques de ce type.
La prairie alors ?
Ah, la prairie, non, c'est très différent. La prairie, c'est un lieu dans lequel on marche, dans lequel, donc, on avance. Au besoin, les jambes fouettées par des herbes plus hautes, moins soignées que celles du pré, et puis l'extension de la forêt modifie la vue par rapport à celle du pré. C'est un espace qui a été souvent, aussi bien par les peintres que par les écrivains, situé comme théâtre de l'apparition de la femme.
Mais la prairie américaine, vous citiez Thoreau avant, Thoreau, Fillmore Cooper, la prairie au milieu du 19e siècle, a été un motif important dans la poésie et la littérature occidentale.
Oui, mais attention, la prairie n'est pas celle des westerns, hein. Ce n'est pas celle du combat des cow-boys, etc. C'est la grande prairie d'avant.
Mais où rampent les peaux rouges quand même.
C'est le début du 19e siècle, hein. Donc encore impénétré, sauf par des quelques tribus indiennes. Et là, il y a par la suite, dès le 19e siècle, une grande nostalgie de la disparition, parce qu'elle est disparue pratiquement, de cette prairie évoquée par Fenimore Cooper. La grande prairie des bisons, la grande prairie des indiens, la grande prairie vide. La grande prairie dans laquelle il n'y a presque pas d'arbres en plus, mais dans laquelle effectivement des incendies doivent rénover l'herbe et puis surtout permettre de se défendre lorsqu'on est attaqué.
L'apparition des fermes et des clôtures, le massacre des bisons, l'importation que vous datez de nouvelles espèces venues d'Europe qui sont impropres à la consommation des bisons, tout ça est très daté, votre livre, non, parce que oui. Il y en a qui vont croire que la marge de l'histoire aujourd'hui n'est pas consacrée à l'histoire. La poésie, c'est ce qui peut rendre compte le mieux, peut-être, de certains objets d'histoire.
Pour moi, l'histoire des émotions ne peut être faite que si l'on considère la poésie. Le roman est à ce propos un peu dangereux pour s'en tenir simplement aux sources littéraires, parce que les romanciers, même naturalistes, pratiquaient souvent les tactiques d'illusion du vrai. Alors que le poète, lorsqu'il dit une émotion, sans doute l'a-t-il éprouvée. Inventer une émotion qu'on n'éprouve pas est assez difficile. Donc, si l'on s'en tient à l'histoire des émotions, à laquelle je crois, je ne suis pas le seul, il y en a partout dans le monde en ce moment, des histoires des émotions, il faut admettre que la poésie est source d'histoire.
Alain Corbin, on va continuer notre parcours en revenant en Europe, au cœur de la France, dans l'Aveyron, dans le film Micro. Cosmos.
C'est une prairie au petit jour, quelque part sur la Terre. Caché sous cette prairie s'étend un monde démesuré, grand comme une planète. Les herbes folles s'y transforment en jungles impénétrables. Les cailloux deviennent des montagnes, et le plus modeste trou d'eau prend les dimensions d'un océan. Mais pour aborder ce monde, on doit savoir faire silence et écouter ses murmures.
On les entend encore un peu, mais c'est l'harmonie, là, c'est pas la guerre, parce que vous parlez aussi de la guerre des insectes.
Oh, je ne suis pas le seul. Je me suis inspiré, justement, des poètes, notamment Victor Hugo, ou alors du grand historien Michelet. Il est intéressant de voir que Michelet, après avoir écrit une histoire de la Révolution, une histoire de France, etc., s'intéresse à l'insecte, et consacre tout un livre, passionnant d'ailleurs, à l'insecte. Et que Victor Hugo, lorsqu'il parcourait une prairie, ou un pré plutôt, s'asseyait pour regarder les guerres qui se déroulaient dans l'herbe.
On est fin mai, alors là, il voit le hanneton de mai qui finit son parcours.
Qui meurt et qui est dévoré. Dévoré, pardon. Donc,
dévoré par un scarabée.
Donc, dans la douceur.
Caparaçonné comme un guerrier. Oui. Quoi.
Dans la douceur du pré, de l'herbe du pré, il y a, par contraste, en quelque sorte, des guerres terribles. Et fascinantes, puisque Victor Hugo était capable de rester une heure. Une heure à regarder à ses pieds, une fois assis, ce type de guerre.
Mais il est vrai qu'assis, il risquait moins de tuer des insectes de son pas lourd de marcheur, ce qu'il redoutait.
Non seulement qu'il le redoutait, mais ça, c'est un poncif déjà. C'est-à-dire que Werther, de Goethe, nous dit que lorsqu'il se promène dans les prés, songe qu'il est en train de détruire des milliers d'êtres vivants, et cela l'attriste. Donc, on est au cœur du passage, en quelque sorte, du 18e au 19e siècle, qui est un moment clé dans le domaine de l'âme sensible, et donc dans le domaine de l'histoire des émotions. Et donc dans le domaine de l'histoire des émotions suscitées par l'herbe.
Donc avant la deuxième moitié du 18e siècle, on n'aurait pas dit ça.
Je pense. Le 17e, par exemple, le siècle d'avant, c'est un siècle plus cérébral, peut-être. Et donc moins attaché, bien sûr, ça, tous les spécialistes le savent, au sentiment de la nature. Donc, c'est plutôt à partir des années au-delà de 1750, d'ailleurs, de Rousseau, disons, hein, que cela se développe. Et n'oubliez pas que Rousseau était passionné depuis toujours par l'herboristerie. Enfin, le fait
que ça l'a repris, l'âge venant. Alors, les romantiques, dont vous citez beaucoup d'auteurs, Maurice de Guérin, le cahier vert. On a oublié de dire que l'herbe était verte. Il songeait avec mélancolie non seulement aux insectes qui étaient tués par le pas du marcheur, mais aussi par toutes les herbes qui étaient fauchées par la faux. Alors, prêtez l'oreille, parce que ce bruit-là, on ne l'entend plus beaucoup. L'homme, avec de l'herbe mouillée, nettoie sa faux, et ensuite, il va l'aiguiser.
Il en a peut-être déjà pas mal vu, celle-là, non?
Vous voyez comme elle est vieille, comme moi.
Vous préférez travailler comme ça ou avec le tracteur?
Oh, ben, des tracteurs, j'en ai jamais eu, moi.
Vous avez fait couper les chars, moi. Et puis, votre cheval, vous m'avez dit, vous allez le vendre. Alors, vous voulez le vendre à qui, alors?
À qui? Je voudrais trouver une personne qui soit consciencieuse, qui le garde comme un copain, comme moi, je le garde, sans le brutaliser.
Un petit salut à Monsieur Pastourel des Barrues, à Gérardmer, en 1983. Ça n'existe plus guère, le spectacle de la fenaison, et pourtant on s'en souvient même quand on ne l'a pas vu.
c'est un paradoxe, mais beaucoup de gens l'ont vu malgré tout. Hein. Disons, les gens qui ont 45-50 ans ont eu l'occasion encore de voir la fenaison. C'est pas facile de faucher. Il est pas facile de faucher. Je ne sais pas si vous avez essayé, moi j'ai essayé. Ça s'apprend. Et d'autre part, c'était quelque chose de social et de collectif. La fenaison, ou du moins, le fait de faucher, parce que faner, c'est un peu autre chose. Mais le fait de faucher se faisait en équipe et il fallait avancer à son rang, en quelque sorte. Et ensuite, il y a la fenaison, c'est-à-dire le fait de remuer le foie, l'herbe pour en faire du foin, pour le sécher. Ce qui, pour Madame de Sévigné, était simplement batifolé un peu. Ça, c'est l'aristocrate, quoi, qui travaille pas véritablement, qui disait ça. Mais donc, il y a des jours de fenaison, avec la crainte de la pluie, et puis il y a donc le fait de ramener, en quelque sorte, la récolte de foin, d'herbe, vers soit des meules, confectionner des meules, soit des granges. Oui.
Mais moi, j'ai pas fané ni fauché, mais j'aimais bien me tenir en haut.
Ah oui.
Dans les charrettes.
Ah oui, oui, beaucoup, les enfants ont beaucoup éprouvé ça très longtemps. Fromentin le rapporte dans son grand roman bien connu, Dominique, c'était un de ses grands plaisirs que d'être au sommet de la voiture de foin, oui.
Mais il peut venir d'autres plaisirs quand on est en position couchée, non pas en haut des sommets de foin, mais comme ça, là, dans l'herbe qui vous est chère. Benjamin, les mémoires d'un puceau, Pierre Clémenti. Alors, c'est un jeune homme qui est désiré par toutes les femmes du château de Saint-Brice, notamment par Madame de Chartres, Tania Torrens.
Étendu là dans l'herbe, vous étiez charmant. Je vous prenais pour un elfe ou bien quelque lutin.
Non, je suis Benjamin. Vous êtes une amie de ma tante?
Oui.
Vous êtes Madame Latour?
Non, Madame de Chartres.
Ah.
Ah.
C'est que j'ai entendu parler de vous.
Pas?
Par le comte qui en parlait à ma tante.
Et qui disait?
Je n'ai pas bien compris. À ma tante, qui lui disait, vous ne m'aimez plus.
Vraiment?
Le comte a répondu, c'est ce que m'a dit Madame de Chartres, après que je lui ai fait trois fois l'amour. Comprenez-vous ce qu'il a voulu dire?
Oui, je le crois. Mais vous, Benjamin, qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
Mais faire l'amour? Comment peut-on faire un sentiment?
Alors, il me faut vous dire trois choses. La première, c'est qu'il ne faut pas écouter les conversations quand elles ne vous sont pas destinées. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas répéter ces conversations quand on les a entendues. Et la troisième, venez ici. Est-il possible que tu ne saches pas ce que cela veut dire? Eh bien, la troisième, c'est que je veux bien, moi, vous expliquer ce que vous n'avez pas compris.
Où allons-nous?
Pour ce que j'ai à vous apprendre, petit garçon, il nous faut un endroit plus tranquille.
Ilinka Negulescu, qui a préparé cette émission, s'est dit on pourrait peut-être inverser la situation qui est tout le temps décrite par Alain Cormin dans Sa fraîcheur de l'herbe. Un pied nu de femme sur l'herbe fraîche et le désir des hommes. Là, c'est le jeune homme désirable étendu sur l'herbe.
Oui, c'est beaucoup moins fréquent. Beaucoup moins fréquemment évoqué dans la littérature. Il est évident que c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est la femme plus ou moins dénudée qui s'offre ou qui ne s'offre pas, qui apparaît ou qui foule l'herbe verte de son pied blanc, pour reprendre des expressions de Pétrarque qui étaient fort connues des écrivains du 19e siècle. Hein. Donc c'est un lieu érotique. Hein. C'est un lieu érotique, doublement érotique. C'est un lieu érotique justement dans le domaine de la poésie, la femme qui apparaît, le corps qui se dénude, tout cela pouvant la montée du désir, tout ça, pouvant aller jusqu'à la faute de l'abbé Mouret de Zola, ou au cri, en quelque sorte, de la maîtresse de Maupassant, qui a envie de faire l'amour dans l'herbe, justement, avec un faune, c'est-à-dire Maupassant, pour pouvoir crier à loisir dans une société où on ne criait pas dans les chambres conjugales. Bon, ça, c'est le plus connu. Ce qui est peut-être le plus intéressant, parce que vous avez évoqué ça rapidement, c'est le pied blanc, nu, de la femme dans l'herbe. Et l'herbe qui se réjouit, nous dit Pétrarque, de cela, et qui garde la mémoire de ce pied. Je dis ça parce que l'herbe est le lieu, donc, de la sensualité, et du faire l'amour, mais l'herbe était aussi l'herbe de l'idylle, du sentiment amoureux, l'herbe du flirt, les jeunes gens d'un siècle, entre 1870 et 1960, le pré, la prairie, c'est aussi le lieu du flirt, de l'idylle et donc du sentiment amoureux qui ne va pas jusqu'au bout, comme ce que nous venons d'évoquer.
Dans la faute de l'abbé Bourret qui se passe au Paradoux, il y a évidemment un lien entre le lieu érotique et le paradis terrestre qu'ont connu à un moment Adam et Ève. Albine, l'héroïne, va mourir. On enterre dans les prés. Et les cimetières peuvent avoir des allures de prairie, enfin du moins dans l'imaginaire contemporain, parce que nos cimetières étaient rocailleux et pierreux. Maintenant, on aime bien les cimetières paysagers.
Oui, je ne suis pas un spécialiste de l'époque toute contemporaine dans ce domaine, mais je remarque simplement qu'à partir du moment où les cimetières ruraux se sont développés, c'est-à-dire le premier tiers du 19e siècle, avant c'était des fosses communes, hein, on enterrait le peuple, je puis dire, dans les fosses communes, on a tenu à faire voisiner les pierres plates du cimetière et l'herbe. Si vous avez l'occasion de visiter les îles anglo-normandes, vous verrez encore de ces petits cimetières anglais dans lesquels la pierre est presque imperceptible et l'herbe très bien entretenue. C'est vraiment un très beau paysage que le cimetière herbeux.
Vous avez raté le printemps des cimetières qu'a cru devoir organiser le week-end dernier la ville de Paris, qui défendait sa politique de phyto zéro, hein, l'arrêt des phytosanitaires dans les cimetières. Mais il reste le week-end des jardins, là. On peut aller se promener avec le livre d'Alain Corbin, La fraîcheur de l'herbe chez Fayard, sous le bras, le jardin. Le jardin.
Oh. Il y a une histoire du jardin, il y a spécialistes.
Oui, mais...
Mais le jardin du 19e siècle, le jardin public...
Les plantes qui n'ont pas le droit de s'écarter les unes des autres.
Ils n'ont pas le droit, puis les enfants n'avaient pas le droit de marcher. Ils étaient là pour regarder l'herbe, comme on regarde un tableau au musée, et profiter en quelque sorte des émanations hygiéniques pour lutter contre la tuberculose, et c'était à peu près tout.
Tandis que chez vous, l'herbe est autorisée pour tous les usages.
D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre, et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux.
C'était Michel Simon avec en arrière-plan, vous avez l'oreille fine depuis que vous écoutez l'herbe pousser, Serge Gainsbourg. Cette émission préparée par Ilinka Negulesco était réalisée par Lise Combe avec à la technique Loïc Frapsos. Et chez vous, Mathieu Vidard?
Oui, Jean, dans la tête au carré, l'évolution humaine, l'immortalité, le transhumanisme avec Pascal Pic, paléoanthropologue, pour nous en parler.